Bon, ça marche, c'est bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée à chacun. Alors, est-ce que ça marche tout là ? Bonne soirée à chacun. Et puis, bien évidemment, beaucoup de belles choses pour cette année 2017. Donc, je suis le père Pierre-Marie Castagnos. Je fais partie de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, qui est située, en tout cas, il y a plusieurs maisons, mais une maison est située à côté de Compiègne, et d'autres en Argentine et puis en Alsace aussi. Et donc c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de 8 ans, 8 ans et demi que j'ai fondé cette association Spi & Spi avec Margot. Et de fait, les développements sont vraiment assez surprenants parce qu'au départ, ça ne se voulait pas du tout quelque chose d'aussi répandu et connu. Et puis ça s'est fait progressivement. Et puis voilà, c'est le Seigneur qui agit dans tout ça. J'aimerais bien vous parler du thème de ce soir. Les catholiques doivent-ils tous supporter ? Nous ne supporterons rien. Voilà. Donc, c'est c'est le bureau qui m'a donné. Donc, c'est une commande, si j'ose dire. C'est le bureau qui m'a donné le thème de ce soir. Parce que semblerait que bon, qu'est-ce qui un peu une forme d'introduction. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire oui ? À cette question. Au fond, comme catholique, on doit toujours supporter, voilà, s'il suffit que tu dises ça dans ton entourage, tu dises ça dans ton travail, etc., etc. Du coup, il semblerait qu'on t'impose des choses qu'aux autres, on n'impose pas. Parce que, comme catholique, tu dois être gentil. Voilà. Donc, et puis, il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là dans l'Évangile. Par exemple, qui est le plus grand ? Est-ce que c'est celui qui est à table ou celui qui sert ? Mais moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et puis d'autres, l'amour accepte tout. On se rappelle ce passage dans Corinthiens qu'on lit régulièrement aux messes de mariage. Hein, l'amour prend patience, l'amour de six, etc. L'amour accepte tout. Et puis nous sommes la religion du tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue. Ben, voilà. Voilà. Il semblerait que oui, en fait, quelque part, on a une vocation de victime. Et puis... il y a Jésus lui-même qui dit, si on te demande ta chemise, ben donne ton manteau. Donne ton manteau. Hein, et puis, pour couronner le tout, hein, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, il semblerait que, au fond, c'est vrai que les catholiques ou les disciples de Jésus en général, pas que les catholiques, ont une vocation de victime et donc doivent se contenter de souffrir et puis ça va bien parce que du coup, on prend la croix de Jésus. Mais il n'en est pas ainsi. Deuxième partie de l'introduction. Lors de sa passion, Jésus lui dit au serviteur du grand prêtre, « Pourquoi me frappes-tu ? » C'est intéressant, c'est qu'il n'a pas accepté cette violence, mais il l'a interrogé et il l'a repoussé dans ses retranchements. Et puis, évidemment, Jésus a provoqué nombre de conflits. Quand vous regardez le nombre de conflits que Jésus a provoqué, que ce soit les guérisons le jour du sabbat, que ce soit évidemment chasser les vendeurs du temple, les marchands du temple, hein, face aux pharisiens, sépulcre blanchi, etc., etc. Le nombre de conflits que Jésus a provoqué, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Hein, il n'a pas, et puis il a enfreint la loi quelque part assez volontairement de façon régulière, que ce soit face à la femme adultère, que ce soit face au sabbat, que ce soit face au pur et à l'impur. Hein, c'est vraiment la grande nouveauté du christianisme, c'est qu'il a fait exploser, imploser le pur et l'impur. Voilà. Donc on sent qu'il a été fauteur de troubles. Et puis, on sait bien pourquoi Pilate l'a arrêté. Ben voilà, si tu es ami de l'empereur, tu ne peux pas laisser cet homme-là semer le trouble. Et Pilate, qui voulait, voilà, qui était préfet en Judée, voulait quelque chose de paisible. C'est un fauteur de trouble. C'est quelque part un révolutionnaire à sa manière. Donc, loin des clichés un peu gnangnans et un peu, je veux dire, sans beaucoup de teneur, on voit qu'au contraire, le Christ a été quelqu'un qui a provoqué dans son temps, et que les disciples de Jésus aussi ont provoqué, qu'on voit le nombre de personnes qui parmi les saints, en tout cas, ont été des provocateurs. Saint Vincent de Paul, par exemple, à sa manière, hein, comme quand il était, aumônier des galères, bien voilà, on le voit bien, celui qui a... qu'il a dit non, il a pris la rame, il s'est mis lui-même à ramer. Vous voyez, par exemple. Donc, voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'en termes d'introduction, ce n'est pas si évident que ça que nous avons une vocation de victime et d'agneau immolé. Qu'est-ce qu'on ne doit pas supporter ? C'est-à-dire comme personne humaine d'abord. Alors, avant de nous situer comme catholiques, nous sommes d'abord personnes humaines. Donc personnes humaines, hommes, femmes, il y a des choses qu'on ne doit pas supporter. Tout ce qui est, ça tombe sous le sens, mais c'est bien de le redire, les atteintes contre soi, les manques de respect, toutes les formes de violence contre le corps et contre l'esprit. Mon ministère, c'est beaucoup la préparation au mariage. Et actuellement, j'accompagne un couple. Et je lui ai fait prendre conscience que dans son éducation, il avait été victime de mauvais traitements. Mais pas de mauvais traitements à la manière corporelle, mais de mauvais traitements à la manière psychologique. Une autorité paternelle excessive, très caractériel, avec des colères considérables, etc. Et lui a été apeuré. Et on voit bien qu'aujourd'hui, je dis, mais il y a des choses aujourd'hui, tu ne peux plus accepter de ton père. Donc, pour être respecté comme personne humaine, il y a des choses que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas accepter dans vos familles, par exemple. S'il y a des familles conflictuelles, etc. On n'a pas accepté ça. Dans le monde professionnel, on n'a pas à être traité, insulté, méprisé. Non, on n'a pas à être ça. Je pense que c'est souvent vous acceptez beaucoup trop de choses, d'une certaine manière. Et au contraire, c'est l'invitation à s'insurger contre toutes les formes d'injustice. Mais on voit bien que c'est difficile, ça. Ça nous est difficile parce qu'on a aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, un peu ce logiciel qui nous fait dire, mais non. Et puis même, si on spiritualise les choses, eh bien voilà, je suis comme Jésus qui s'offre sur la croix. Alors qu'il y a des choses qu'on peut changer. Nous sommes invités, comme disciples du Christ, à éviter le mal et à faire le bien, et à faire que le mal recule. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Nous sommes invités à être vraiment des... Jésus lui-même, on a dit de lui, ben voilà, il est la pierre sur laquelle on trébuche. Donc, tout ce qui est les atteintes contre soi, déjà comme personne humaine, les atteintes contre soi, dire non aux violences d'où qu'elles viennent, dire non aux violences qu'on nous inflige. Dire non, c'est dire je. Et la difficulté parfois que vous avez, et c'est normal quand on est jeune et singulièrement jeune professionnel, c'est qu'on a du mal à dire non. Parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Du coup, on supporte des choses qu'on ne devrait pas supporter. On supporte des choses qu'on ne devrait pas supporter. Je pense par exemple, dans le milieu professionnel, à cette jeune fille qui travaillait dans des grands cabinets comme ça de consultants, etc., et qui, d'une manière ou d'une autre, n'était jamais staffée. Staffée, ça veut dire qu'on lui donnait jamais de travail. Et c'est une manière, dans ces cabinets, c'est une violence. Pour moi, c'est une forme de violence. Pas physique, on est d'accord, mais c'est une violence psychologique. C'est-à-dire que, alors que tous les autres reçoivent du travail des partenaires, toi, tu es sans rien. Oui, et donc, du coup, elle a cru que, face à ça, voilà, il fallait accepter, etc. Et total, elle est tombée dans une dépression profonde, parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de te faire signer ta dème. C'est ça, l'objectif. Donc, il y a des lieux, je pense en tout cas des lieux au niveau professionnel, dans lesquels on ne peut pas, qui sont tellement dans un irrespect des personnes, qu'on ne doit pas y être. De certaine manière, on doit, même si c'est très bien payé, parce que voilà, ils compensent ça évidemment par l'argent, c'est assez classique, il y a des choses qu'on n'a pas acceptées. Et de fait, elle pensait dans sa naïveté, elle disait je vais envoyer un mail, etc. Ça n'a strictement rien fait au partenaire. Écoutez, si ça continue comme ça, je pars. Voilà. Puis finalement, voilà, elle a donné sa démission. Et bon, mais alors, soit on lutte, alors il faut voir un peu qu'est-ce qui est opportun de faire. Est-ce qu'on doit lutter, etc., et tenir Mordicus, le dernier des Mohicans? Ou alors, est-ce que, bon, ben, dans un environnement comme ça, eh bien, c'est des choses qui nous détruisent intérieurement. Et je pense, de ce point de vue-là, c'est une autre chose, c'est ne pas accepter ce qui nous détruit comme personne, ce qui nous détruit dans notre relation. Il y a des personnes qui sont toxiques. Ça, c'est bien. Jésus dénonce, par exemple, Hérode, ce renard. Il le désigne, ce renard. Il y a des personnes qui sont toxiques. Et c'est pas pour rien, on est dans le temps après Noël, etc., de voir que la Sainte Famille a dû fuir l'Hérode du temps de la naissance de Jésus. Hein, et donc, du coup, parce qu'à un moment donné, il y a fuir aussi des situations qui nous mettent dans la difficulté, qui nous mettent en danger. On n'a pas à affronter toutes ces situations. Du coup, en tout cas, je pense que de ce côté-là, c'est repérer. Il y a des personnes qui sont toxiques. Toxique pour nos relations, toxique pour nos vies professionnelles, toxique pour nos familles. Et donc, c'est bien de les repérer. Et à quoi on repère une personne toxique? C'est une personne qui, tôt ou tard, te culpabilise. Toxique dans les relations amoureuses. Il y a des relations amoureuses toxiques. Ça, c'est évident. Donc, du coup, on n'a pas à rentrer, et ça c'est très destructeur au niveau de l'acceptation de soi-même, au niveau de la construction de sa propre personnalité, on n'a pas accepté ça. Mais aussi, une chose que, comme personne humaine et comme chrétien singulièrement, on a à ne pas accepter, c'est abdiquer sa propre conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est assez délicat comme thème. Parce que la conscience, en tout cas pour nous chrétiens, c'est le lieu vraiment où siège la présence de Dieu, quelque part. C'est, vous vous rappelez cette phrase du cardinal Newman, qui a été qui était de la High Church de l'anglicanisme, de l'Église d'Angleterre, et qui s'est converti au catholicisme, et s'est converti par la force de sa conscience, à tel point qu'un jour, un prélat un peu inspiré, disons, ben voilà, portons un toast au Saint-Siège et au pape, et lui dit non, je porte d'abord un toast à ma conscience. Parce que c'est une conscience droite qui l'a amené par l'étude des textes primitifs à rejoindre l'Église de Rome. Voilà, mais je crois que c'est intéressant de dire que nous avons parfois cette tendance à abdiquer face à des puissants, ou alors simplement rationaliser, nous donner des raisons d'agir parce que voilà, c'est comme on agit, on se donne des raisons, alors que notre manière d'agir, elle est pas droite, elle est pas correcte. J'accompagne un couple, lui a des problèmes avec l'alcool. Il m'a, très intelligent le type, il m'a tenu un quart d'heure un discours comme quoi que par rapport à la moyenne de la consommation masculine, somme toute, c'était très bien. Et c'est le petit rhum, c'est des rhums ou whisky, c'est pas des alcools de dames, je veux dire, c'est tous les jours. Donc voilà, je lui dis, mais tu as un problème avec l'alcool? Non. Ben, je lui dis, tu sais, tu veux savoir si oui ou non? Arrête une semaine, pas une goutte, détox total. Tu sauras. Oh non, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça? C'est des gens, c'est des personnes, vous voyez, ils rationalisent, ils se donnent des raisons d'agir comme ils agissent. Et donc, du coup, leur conscience, le niveau de conscience, petit à petit baisse, et du coup, on arrive à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et pour soi-même, mais aussi pour d'autres, dans des environnements qui nous-mêmes ne sont pas acceptés. Donc, je trouve ça intéressant de faire attention à. Et comment, au fond, ne pas supporter tout, si ce n'est, au fond, en se formant et en formant sa conscience qui a comme objectif de faire le bien et d'éviter le mal. Et donc, c'est connaître ce qui est bon et connaître ce qui est mauvais. Mais ce n'est pas si simple. Ça demande d'avoir des principes un peu universels. C'est ce qu'on appelle la morale ou l'éthique, voilà, qui nous permettent justement de connaître les choses. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'ignorance coupable. Je ne veux pas connaître, je ne veux pas savoir, de peur que ça me demande un changement d'attitude. Oui, c'est cette manière-là de vivre aussi. Ça, c'est aussi une conscience qui n'est pas droite. Donc, parfois, on abdique face à notre conscience. On supporte des choses. Et donc notre conscience, parce que notre conscience abdique progressivement et nous fait accepter des choses qui ne sont pas acceptables, même au plan humain, parce que au-delà du fait d'être catholique, au plan humain, on accepte des choses qui n'ont pas. Donc se former et se laisser interpeller, je pense que l'accompagnement spirituel est une grande chose qui permet de se laisser interpeller. Est-ce que, en conscience, de remettre son agir sous le regard d'un autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette manière d'agir, c'est quelque chose de bon? J'étais juste avant vous, en accompagnement, avec une jeune femme qui est. Comment on appelle ça? Qui exerce dans le paramédical. C'est pas. Je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Comment ça s'appelle? C'est pas chiropracteur, mais c'est dans le genre. Quoi. C'est qui passe les mains à la main et qui voit un peu, comment on appelle ça, aidez-moi là. Et ostéopathe, merci. Et donc, une personne qui était ostéopathe et qui me dit, voilà, elle me dit, je sens que j'ai un grand pouvoir comme ostéopathe, parce que je perçois des choses, et c'est tout à fait juste, je perçois des choses que d'autres ne perçoivent pas. Par exemple, elle peut très bien, uniquement par le toucher, percevoir si une personne a subi des violences, voire des violences sexuelles, percevoir les traumatismes que, dans l'enfance, telle personne a subi. Bon, du coup, elle me dit, et on me propose une formation. On me propose une formation qui, accrochez-vous, dont le thème est déprogrammation psychosomatique. Déprogrammation psychosomatique, c'est-à-dire que, bon, ce qui est intéressant, il y a toujours quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'on se dit que dans le corps, il y a des émotions qui sont restées bloquées, ce qui fait que tu as mal au dos. Bon, on dit le mal au dos, classiquement, c'est aussi psychique, etc. Mais ça a besoin d'un discernement. Est-ce que vous imaginez, elle me disait, mais c'est dingue de voir les ostéopathes, l'ego, certains en tout cas, l'ego qu'ils ont. Des gens qui ont beaucoup d'expérience, etc., parce qu'ils arrivent avec un pouvoir tel, surtout face à une personne en fragilité qui est la personne malade. Voilà, donc, d'avoir, par rapport à sa conscience, de l'examiner, ce qu'on appelle l'examen de conscience, et de voir qu'est-ce que je suis en droit d'accepter, qu'est-ce que je suis en droit de refuser. Est-ce que j'ai des choses aussi contre lesquelles je dois m'insurger, hein, je dois m'indigner? Quelle est la dernière fois que vous vous êtes indigné? Ça remonte à quand? Jésus n'a fait que s'indigner contre une application de la loi qui a été complètement réductrice de la révélation faite à Moïse. Complètement réductrice. On chosifiait les choses. Alors Moïse nous a dit que si on pouvait avoir renvoyé sa femme, parce que si on avait en cas d'adultère, mais aussi on pouvait faire une sorte d'acte de répudiation, etc. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Les filles, hommes et femmes, ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Je veux dire, des choses comme ça qui font que, précisément, il a dû remettre... Alors que les personnes, tu vois, parce que eux, ça leur venait bien d'avoir, ils ont dû faire la vie impossible à Moïse, ils ont obtenu de faire un acte de répudiation, etc. Bon, mais Jésus remet les pendules à l'heure, sans cesse. Donc, et s'insurge. Hein, vous filtrez le moucheron et vous laissez passer le chameau. Faut voir comme ça. Sépulcre blanchi. Ça envoie, hein. Donc on ne peut pas dire que ce soit néant de ce point de vue-là. Et nous aussi, moi je trouve que quelque part, on accepte trop de choses, déjà comme personne humaine, on accepte trop de choses, trop d'injustices autour de nous, et qu'on n'est pas assez conscient que à travers les injustices, eh bien, c'est quelque chose de la personne humaine qui est dégradée. Et du coup, on préfère se taire. Si je vois quelqu'un dans mon boulot qui est traité plus bactère ou voilà, qui subit une injustice, est-ce que j'irai monter au front ? On voit, c'est pour ça les saints, par exemple, bon, tout le monde ont parfois des attitudes étonnantes. Saint Maximilien Kolb, vous connaissez, c'est une histoire énorme. Vous ne connaissez pas les hommes handicapés. Saint Maximilien Kolb, de franciscain de son état, qui a vécu, donc, qui est mort pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été déporté, fait prisonnier. Et il y avait des prisonniers qui s'étaient échappés du camp. Et pour un prisonnier, 10 devaient échapper, 10 devaient mourir dans le bunker de la mort. Et l'officier passe dans les rangs des pauvres malheureux, des déportés, et choisit des personnes. Le père Maximilien Kolb n'était pas dedans. Première réaction, le boulet passait pas très loin, je veux dire, bon. Deuxième réaction, il voit parmi ces 10 un père de famille polonais qui supplie l'officier de lui laisser la vie, parce qu'il est père de 7 enfants. Et le père Maximilien Kolb fait un pas. Qui es-tu ? Je suis prêtre. Que veux-tu ? Je veux mourir pour l'un d'eux. Pour qui veux-tu mourir ? Et il désigne le père de famille. Vous voyez, c'est des cas extrêmes, mais nous, on a à vivre des cas beaucoup moins extrêmes, beaucoup plus simples quelque part. Ce n'est pas notre vie qui est en danger. Mais je trouve ça beau de voir cette grandeur d'âme qui fait que je ne vais pas laisser l'injustice gagner. Je ne vais pas laisser le mensonge gagner. Et ça, de ce côté-là, c'est quelque chose. On abdique notre conscience. On abdique notre conscience. On regarde de l'autre côté. De ça, si vous vous confessez, ce que j'espère, il faut s'accuser. C'est marrant. Les gens se confessent beaucoup de trucs de sexe, etc. Mais rarement d'avoir manqué à la justice. Or, quelque part, pas que j'encourage la débauche, mais je veux dire, Jésus, face à la personne qui était fragile de la braguette, il a montré pas mal de miséricorde. En revanche, celui qui était injuste et qui traînait l'autre, c'était vraiment qui faisait peser. Et les prophètes, vous avez des tas d'exemples, dans la Bible, où les prophètes ont dit, David avec Bethsabée, etc., qui a pris la femme de Uri le Hittite, etc., parce qu'elle était belle, il a envoyé Uri le Hittite ensuite au cœur de la bataille, il a pris cette femme pour coucher avec, etc. Bon, et puis ensuite, tu as le prophète qui arrive, paf, qui l'assaisonne bien, parce que justement, il a fait quelque chose qui était contre le cœur de Dieu. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose que n'abdiquons pas notre conscience. Nous ne sommes pas les seuls à avoir l'exclusivité de la justice. Tout homme, encore une fois, toute personne humaine, mais peut-être plus que les autres, on en a la responsabilité. On en a la responsabilité. Et si on est témoin d'injustice, on a la responsabilité devant Dieu de réagir. Ça, très certainement. Et la lâcheté dont parfois nous faisons preuve, eh bien, nous en répondrons. Ça, c'est sûr. Alors, ne pas accepter, c'est dans ce même ordre, accepter ce qui contribue au mal et ce qui contribue à des structures de péché. Qu'est-ce qu'on appelle ? On parle de l'injustice, la calomnie. Il y a des personnes qui répandent des calomnies. La calomnie, c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un et de le répandre. la calomnie, ou la malhonnêteté. Hein, voilà, encore une fois, on abdique notre conscience et on accepte. On a eu une retraite là, entre Noël et le jour de l'an à l'abbaye. Il y avait une des jeunes qui participait là, qui est avocate. Et elle me dit, que dois-je faire quand un client me demande de le défendre et qu'il me dit qu'il ment et qu'il y a 30 à 50 000 euros d'honoraires. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'étais en Argentine pendant une dizaine d'années, j'ai eu contact avec le responsable Total, de Total en Argentine, qui ensuite a grandi dans l'échelon. Il était dans le triumvirat à la suite de la mort de Marjorie. Et il a été sollicité par rapport à la corruption. Parce qu'en Argentine, comme dans beaucoup de pays où il y a du pétrole, sauf peut-être la Norvège, mais il y a beaucoup de corruption avec. Et puis il a dit non. Et il a dit non, et il a dit très clairement, si vous demandez que je vous verse, parce que c'est ça, il fallait verser des pots de vin pour avoir la possibilité d'exploiter des gisements. Bien, sachez-le que, premièrement, ma société a dit niet de façon claire, l'a affiché. Il me dit, oui, on pourra appeler quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, si ça se sait qu'il verse des pots de vin de façon évidente, etc., finalement, ils ont cédé. Et il n'a eu aucun pot de vin à verser. Parce que face à ça, il s'est insurgé contre la malhonnêteté. Et je pense que, bon, il se trouve que c'est un chrétien convaincu, mais ayons foi que, aussi, quand on s'insurge contre la malhonnêteté, et vous imaginez un peu les enjeux, hein, les gisements de pétrole et de gaz, surtout en Argentine, c'est considérable. Il a été avant responsable Total Moyen-Orient, donc on imagine un peu ce que ça devait être là-dedans. Mais bon, mais si on sait qu'une marque de vêtements fait travailler au Bangladesh des enfants, objectivement, je ne dois pas acheter des vêtements là. C'est parce que derrière ça, c'est encourager ce qu'on appelle une structure de péché. C'est Jean-Paul II qui parle de ça. La structure de péché, c'est-à-dire qu'il y a des structures, entre autres la pauvreté, il y a des structures qui font que, la pauvreté engendre la prostitution, engendre le trafic des personnes, engendre voilà, tout ce qu'on voit autour des réfugiés, etc. On imagine la corruption, engendre voilà, la violence, bon, etc. Dès qu'on a perçu qu'il y avait une structure de péché quelque part, comme c'est, pour avoir de l'argent, parce que derrière ça, c'est ça, mais du coup, comme chrétien, mais je veux dire comme personne humaine, il ne nous est pas possible d'accepter d'apporter notre pierre, aussi modeste soit-elle, à cette manière de faire. Oui, ça, je crois que c'est absolument impossible. Donc ça veut dire aussi d'être soi-même des guetteurs, des veilleurs, voire, ça se fait pas mal, des lanceurs d'alerte, des personnes qui dénoncent des pratiques. Alors, c'est un peu que les lanceurs d'alerte, c'est un peu les prophètes des temps modernes. Parce que les prophètes, je ne sais pas si vous savez un peu la vie qu'ils ont eue, c'était pas, je ne vous conseille pas d'avoir la même vie, parce que Jérémie, par exemple, qu'est-ce qu'il a pu trinquer, etc., etc. Hein, ben, y en a qui ont, c'est sûr, qui ont eu le courage d'aller contre leur hiérarchie, contre des manières, que ce soit dans la banque, par exemple, que ce soit dans des cabinets, etc., contre leur hiérarchie, et pour dénoncer de façon publique des pratiques malhonnêtes. Et ça, je trouve que, de fait, on n'est pas au rendez-vous. Disons, c'est pas commode. On préfère, encore une fois, tourner la tête. Mais moi, ça ne va rien changer. Dans le sens, c'est plus fort, ils sont plus forts que moi, etc., etc. Mais combien de personnes qui se sont érigées contre des injustices et qui ont obtenu satisfaction, hein, vous vous rappelez cette marche des Noirs américains contre le fait qu'il y ait des bus dans lesquels on ne pouvait pas, les Noirs n'étaient pas admis. Et dit, ben, du coup, on ne va plus prendre aucun bus. Et du coup, on marche à pied. On va prendre que des marches. Mais les compagnies de bus étaient dans une telle difficulté financière que finalement, ils ont cédé. Mais il y avait objectivement une injustice. Vous voyez, une personne, c'est Gandhi qui disait ça justement à propos des chrétiens, disait, si vous saviez la puissance que vous avez dans les mains avec l'évangile, si vous le saviez. Et on voit des personnes qui se sont insurgées et qui se sont dressées. Mais c'est ça par amour, parce que par amour pour le bien, par amour pour la dignité de la personne humaine, et qui ont eu des vies pas faciles, c'est sûr, hein, mais on préfère parfois notre petite vie tranquille, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est ne pas rentrer dans cette... ne pas abonder, en tout cas, ce qui peut consister une structure de péché, etc. Hein, ne pas aller aussi, évidemment, contre les commandements. Les commandements, c'est-à-dire, c'est la base, c'est la morale, ce qu'on appelle naturelle, les 10 commandements. Et le mensonge, par exemple. Ne pas laisser se diffuser le mensonge. Etc., etc. L'homicide, voilà, je pense que parfois, il y a des gens qui ont... Parce que derrière ça, il y a des réseaux de peur. Je pense aux gens qui luttent contre la mafia. Ben du coup, ça sème la peur, il y a une forme de terreur, et donc se lever contre la mafia, c'est pas sans danger. De fait, il y a des personnes qui ont été tuées. Et voilà, mais aussi, c'est des personnes qui ont porté du fruit, et voilà, je pense que, mais de façon plus modeste, dans nos environnements ou dans nos familles, il y a des injustices. Dans nos familles. Je vous ai parlé de cette manière dont le père de famille avait de traiter son fils. C'est injuste. On n'a pas à se laisser insulter. On n'a pas à se laisser déprécier, mépriser devant tout le monde. Voilà. Alors, de façon plus singulière, ça c'est le deuxième point, comme catholique, je veux dire, on assume déjà toute la personne humaine, mais comme catholique, je crois évidemment toutes les attaques contre notre foi. Abdiquer sa foi. On le voit bien aujourd'hui comment la question de la foi est... certains doivent répondre jusqu'au sang de leur propre foi dans des pays voilà, où c'est compliqué, etc. Les chrétiens d'Orient, je pense que c'était la dernière rencontre que vous avez eue au mois de décembre, c'était avec les chrétiens, sur les chrétiens d'Orient. Bon, voilà, c'est des personnes qui ont, à un moment donné, doivent faire le choix de la foi. Mais nous, chez nous, bon, pour le moment, c'est pas encore comme ça, mais il peut y avoir ce qu'on appelle l'apostasie silencieuse. C'est le pape Jean-Paul II qui utilisait cette expression. L'apostasie, c'est apostasier, c'est rejeter, renier sa foi. Et de façon silencieuse, c'est-à-dire, on se moque de moi, on se moque des chrétiens à côté de moi, mon travail, on se moque de l'Église, on se moque des prêtres, etc., etc. Et je ne dis rien. Et je me tais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter comme catholique. On a aussi à monter au créneau chaque fois qu'on nous attaque. Parce que d'autres... Peut-être on attaque plus facilement les catholiques que les autres, c'est possible. Parce qu'on a, mais c'est pas parce que. Alors maintenant, je trouve qu'il y a eu, entre autres, toute une jeunesse dans votre génération en particulier, avec les manifs pour tous, etc. Une jeunesse qui s'est levée avec les veilleurs, etc. Qui est beaucoup plus décomplexée par rapport à sa foi que n'ont pu être les jeunes de ma propre génération quand j'avais vos âges. C'est absolument évident. Et donc, du coup, je pense que vous savez comment est-ce que Frigide Barjot est devenue l'égérie de la Manif pour tous. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Eh bien, elle était sur un plateau de télé, et à un moment donné, il fallait se moquer des religieuses, des femmes qui étaient là, et il fallait s'en moquer. Elle n'a pas pu le faire. Elle a dit, je ne peux pas me moquer de gens qui se consacrent à Dieu. Elle n'a physiquement pas pu. Alors, c'est eu un bug, etc. Et elle est partie de ça. Parce que, et du coup, elle a, c'est tout à fait qu'on dit d'une personne aussi un peu hystérique hein, sur certains rapports. Mais bon, mais en même temps, je trouve avec une fécondité, et puis c'est une personne improbable, je veux dire. Non, c'était vraiment, c'est un coup du Saint-Esprit, cette femme-là. Parce que tout à fait improbable, celle qui a succédé est une personnalité plus attendue, je veux dire, plus dans les normes. Mais là, c'est complètement hors norme, quoi, je veux dire. Et en même temps, hyper catho, etc., hyper à monter au créneau. Et je trouvais vraiment excellent. Mais vous voyez, elle, à un moment donné, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu se moquer. Hein? Les attaques contre la vie. Voilà, je ne vais pas porter secours à des réalités qui attaquent la vie de la conception ou au contraire jusqu'à la mort naturelle et un respect de la vie humaine. Hein, ce qui fait en cause des difficultés avec la question du Téléthon. Le Téléthon qui, par ailleurs, fait du bien dans l'accompagnement des personnes handicapées, etc., mais qui aussi a toute une partie de recherche pour détecter et puis éliminer les embryons malades. Donc voilà, donc c'est quand même compliqué. Pour nous catholiques, c'est compliqué. Et donc il y a certains évêques qui sont montés au créneau, qui ont dit « il n'y aura aucune activité en faveur du Téléthon dans les églises. » Parce que c'est trop ambigu. Alors comme personne humaine, comme catholique, troisième point, comment réagir face au mal? Parce que c'est ça la question. Et nous, comme catholiques, on a une force. Et cela, vous n'en êtes peut-être pas convaincu. Ce qui vous paraissait comme une faiblesse, au fond, est plutôt une force. Premièrement, de ne pas combattre le mal par le mal. Ce n'est pas en étant violent qu'on combat la violence. Et ça, le message, et ça c'est évident, ce n'est pas en rajoutant de la souffrance qu'on combat la souffrance. Et le message évangélique est très fort. Je vous invite à lire le texte que le pape François a fait pour la 50e journée de prière pour la paix, sur la non-violence. Je trouve que c'est, autant je suis assez peu touché par les textes qu'il fait, mais autant là, je trouve que vraiment c'est un très beau texte, vraiment un très beau texte sur la non-violence. Au fond, la question c'est que faire, comment réagir face au mal, de façon plus vaste. C'est comment réagir face au mal, comment ne pas se laisser aspirer par la logique de la vengeance, par la logique de la violence. Et le Saint-Père dit très clairement, c'est que, au fond, il y a tout un travail, la non-violence, c'est un style de vie. C'est-à-dire que, d'abord, la paix, elle se gagne d'abord à l'intérieur de soi-même. Et donc, pour nous, le combat face au mal, c'est d'abord un combat spirituel, un discernement intérieur. Parce qu'en nous aussi, nous avons de la violence. En nous aussi, on a une capacité d'injustice. En nous aussi, on a une capacité de malhonnêteté. Et donc, il y a un combat intérieur, et le chrétien perçoit de façon beaucoup plus aiguë, évidemment, que celui qui n'a pas de vie spirituelle, perçoit de façon beaucoup plus aiguë que, d'abord, la question commence en lui. Hein, c'est Saint Séraphin de Sarov, qui est un saint de l'orthodoxie, hein, qui disait « Garde ton âme en paix, et tu en sauveras des milliers autour de toi. Garde ton âme en paix et tu en sauveras des milliers autour de toi. » Est-ce que nous avons assez de foi pour comprendre que face à une personne, par exemple, violente, le fait de garder son calme est aussi une réponse. Alors, parfois, il faut faire intervenir les forces publiques, etc. Parce que c'est des formes. Mais prenons les cas les plus habituels. Hein, mais une personne, pourquoi un chef qui agonie d'injures à de ses subordonnés. Si on se pose avec une force intérieure, et la vertu de force, c'est quelque chose ce qui est un des signes que le Saint-Esprit agit en nous. Si on a une force intérieure face à cette personne-là, la force, qui est le courage au fond, consiste en deux choses. Premièrement, c'est tenir dans des situations difficiles, et deuxièmement, aller à la rencontre de situations difficiles. C'est deux actes de la vertu de force. Je vous assure que celui qui sera en face sera au moins impressionné. Parce que qu'est-ce qu'il attend ? Que sa violence, quelque part, atteigne son objectif et que l'autre en face s'effondre. Mais si l'autre en face... Mais la violence est une forme de faiblesse. C'est une faiblesse. Une personne violente, c'est une personne faible. Une personne qui sort de ses gonds, c'est une personne faible. C'est une personne qui n'a pas la maîtrise d'elle-même. Et donc, quelque part, même qui montre une certaine fragilité. Enfin, dans sa violence. Moi, j'ai été pendant, dans une autre vie, aumônier de prison en Amérique latine. Et pendant 10 ans. 10 ans, mais là, les premières années, j'allais la boule au ventre. Parce qu'il faut voir les louloules qu'il y a là-dedans. C'est pas des enfants de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est des gens, dont un, je me souviens particulièrement, qui m'attaquaient verbalement et m'insultaient. Et le pauvre a ce chic d'appuyer là où ça fait mal. Parce que l'aumônier de prison en Argentine comme en France fait partie légalement du service pénitentiaire. Alors t'es de quel côté ? T'es du côté des matons ? Tu viens ici pour te faire du fric. Bon, tout à l'avenant, comme une violence. Et j'avais une boule au ventre, Seigneur, j'avais une boule au ventre incroyable. Il fait, ben, c'était fait mon ministère, il fallait que j'y aille, il fallait que j'y colle, etc. Bon. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic. Cette violence-là, elle n'est pas pour moi. Même si moi je la reçois. Mais cette violence-là, elle ne m'est pas destinée, même si c'est moi qui le nomme. Et ça a été un changement intérieur, parce que forcément, je ne vais pas répondre par la violence, parce qu'en termes de violence, je pense qu'il en connaît beaucoup plus que moi. A priori, la baston, ce n'est pas ça qui lui faisait peur. Puis bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude, je n'ai pas été éduqué là-dedans. Bon. Mais tu vois, j'ai pas lâché prise, j'ai continué à venir. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, cette boule au ventre que j'avais, elle a disparu. Le type était toujours aussi violent. Mais je me dis, cette violence-là, surtout c'était des personnes très marginales, etc., c'est la violence contre les jours sans pain, c'est la violence contre la famille avec la promiscuité, les attitudes incestueuses, etc., de bidonville, etc. Bon, le sentiment d'injustice. Et le violent, il faut toujours le laisser parler. Même si parfois on peut parfois en placer une, etc., mais parce qu'il finira par se taire. Si vous vous tenez bon, il finira par se taire. Et là, vous pourrez parler. Et si vous êtes paisible, si vous êtes rasséréné, fort intérieurement, là, vous reprenez la main. Et je pense que nous, comme chrétiens, on a cette grâce du tendre l'autre joue, bien compris. Parce qu'il y a une mauvaise manière de le comprendre, le tendre l'autre joue. Le tendre l'autre joue, c'est montrer un autre visage. Je tends l'autre joue. Je montre un autre visage face au mal et à la violence. Je ne vais pas répondre œil pour œil, dent pour dent, qui est déjà un progrès. Je vais répondre par un regard sur le mal qui est différent. Et ce regard sur le mal me vient de la passion du Christ. Mais je suis fort quand j'en peux avoir. On ne réussit pas toujours face à la violence de quelqu'un. On réussit parfois, on est surpris, et puis on réagit, puis ça monte, etc. Mais violence verbale, violence physique, voilà. Bon, mais du coup, Si on vous agresse, par exemple, physiquement, il faut parler à la personne. Parce que le fait de lui parler, ça le surprend, parce qu'il n'est pas habitué de frapper qu'on parle. Donc du coup, voilà, en général, ça met un peu un terme à... Et donc du coup, mais je trouve ça, de montrer un autre regard, de montrer un autre visage, c'est pas, fais-moi mal. On n'est pas les masos. Mais on montre un autre regard face à la violence et à l'injustice. On la regarde en face et on croit que chaque, et c'est un acte de foi, chaque fois que je suis fort intérieurement et que j'ai pu maîtriser mais aussi mes propres émotions, parce qu'on n'est pas sans émotion face à la violence de l'autre, ben du coup, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui a avancé. Et c'est en cela où nous avons une responsabilité, chers amis, considérable comme disciples de Jésus. De faire avancer le royaume de Dieu. Non pas d'être dans une attitude de victime, mais au contraire, au revers, Jésus s'avance volontairement vers sa passion. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il y a une force, et c'est très vrai dans l'évangile de Saint Jean, on pourrait relier la passion selon Saint Jean, mais il y a une force du Christ qui s'avance vers sa passion. Qui cherchez-vous, Jésus le Nazaréen? C'est moi. Mais qui cherchez-vous, Jésus le Nazaréen? Je vous dis que c'est moi. Cela laissez-les aller. Et les soldats tombèrent par terre. Et vous voyez dans Saint Jean, c'est extraordinaire de voir qu'au fur et à mesure où le combat spirituel, dans l'agonie, agonie en grec, ça veut dire combat, le combat spirituel que le Christ a livré pour accueillir cette volonté du Père, une fois accueilli, il y a une force en lui qui fait qu'il s'avance vers sa passion. Son cœur est prêt. Alors, je trouve que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas le Christ, on est bien d'accord, mais nous-mêmes aussi, nous avons à puiser dans cette passion du Christ, pour résister face au mal. Déjà soi-même, de ne pas se laisser entraîner par la tentation, parce que quelles sont les sources de conflit? Les sources de conflit, c'est Saint Jacques qui le dit au chapitre 4 dans l'épître de Saint Jacques. D'où viennent les conflits et les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, c'est-à-dire de vos passions désordonnées, de vos sentiments désordonnés? Vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux. Vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Voilà. Enfin, c'est ça. Et je pense que c'est dans Saint-Jacques, d'où ça vient les conflits? Ben ça s'enracine dans les tentations du Christ aussi. Qu'est-ce que le Christ a subi comme tentation? Les trois grandes tentations du Christ, qui résument à elles seules toutes les formes de tentation. La tentation du plaisir immédiat, dit à ses pierres de se transformer en pain. Vous vous rappelez de ça? Je vous laisse regarder au début de l'évangile de Matthieu. Il y a le Jésus qui rentre au désert. Ça. Ensuite, la tentation des richesses. Prosterne-toi devant moi et tous ces royaumes, je te les donnerai. La richesse, pouvoir, et l'orgueil de l'esprit le met au-dessus du pinacle, du temple, jette-toi d'en haut, et les anges te porteront sur leurs mains. C'est-à-dire, ces tentations-là, ce sont les lieux de combat spirituel, et c'est ce que nous rencontrons de façon déclinée, différente selon les réalités de chacun. Ben, nous rencontrons des gens qui sont dans le désir de pouvoir, dans des égos surdimensionnés. Nous rencontrons des personnes qui sont dans le plaisir pour le plaisir, et du coup qui posent des actes qui détruisent d'autres. Puis des personnes qui ont une volonté de puissance, une toute puissance, parce qu'ils sont chefs de ceci, parce qu'ils sont chefs de cela. Voilà, ils se croient arriver en haut de l'affiche. Mais le démon n'a aucune imagination. C'est toujours les mêmes. Les scandales, vous allez voir, c'est toujours la même chose. C'est scandale de mœurs, abus de pouvoir, malhonnêteté d'argent, c'est toujours pareil. Donc, je crois que c'est important, nous sommes peut-être mieux que d'autres pour réagir face au mal. Par le baptême, et aujourd'hui, c'est la fête du baptême du Christ, par le baptême, nous avons en nous une force intérieure. nous avons la présence du Saint-Esprit. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on a peut-être pas assez... On a une capacité de combattre le mal par le bien, dit saint Paul. Je pense que chaque acte d'amour désintéressé et fait reculer le mal, fait reculer le monde des ténèbres. Mais ça, c'est un acte de foi, là, pour le coup. Mais en tout cas, je sais que si je vais dans la logique du monde des ténèbres, si je vais dans la logique des tentations, je m'enfoncerai et je me détruirai. Et je détruirai les autres autour de moi. C'est absolument évident. Et peut-être même on l'a expérimenté. Qu'est-ce qu'on gagne à hurler contre l'autre, etc., etc., à faire monter la mayonnaise, à monter dans les tours, etc. Qu'est-ce qu'on gagne? Peut-être que l'autre a peur et se tait. Puis la prochaine fois, ce sera toi qui auras peur. Ne céder à la violence, à la colère, face à l'injustice ou au mal. Ne pas céder. Le discernement des esprits, je discerne, qu'est-ce que me dit l'Esprit Saint, etc. Et la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que les autres fassent. Mais parce que derrière ça, il y a l'idée que justement, si je rentre dans une logique d'affrontement, qui est la tentation de tous, ce sera le plus fort qui dominera. Mais même, regardez les guerres, le Saint-Père en parle dans son document là. Je vous invite vraiment à le lire, il est vraiment top. Il dit, mais les guerres, c'est jamais des victoires militaires. Jamais. C'est toujours des négociations politiques. Alors pourquoi pas commencer par le politique? Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que les FARC, par exemple, en Colombie, ont déposé les armes, etc., etc. C'est d'abord une négociation politique dans laquelle l'Église a été très présente. Parce qu'on ne gagne rien à ce... pendant 50 ans de guerre civile. Alors, c'est pas facile, c'est des traces, pas forcément. Le rapprochement de Cuba et de les États-Unis, c'est Saint-Père qui a été acteur de ça. Parce que il y a cette conviction que quand les peuples le rapprochement, la grande, si on voit au niveau international, le rapprochement, l'amitié franco-allemande, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est unique dans l'histoire du monde. Et les grands constructeurs de l'Europe, c'était pas des fabricants de normes, c'était des grands chrétiens. Et de Robert Schuman, il a eu énormément de gens contre lui, contre ce rapprochement. Il priait tous les jours. Et ses ennemis disaient, on ne peut rien contre lui. Il prie tous les jours. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Puisez dans cette force intérieure. Puisez dans ce que vous avez reçu de grâce du Seigneur. Pour ne pas répondre au mal par le mal, parce que ce mal-là vous détruira à la fin. Mais ayez cette conviction intime que si je montre un autre visage, je désarme l'autre. Tout en étant fort, sans céder. Le Saint-Père, dans le message qu'il a fait pour la 50e journée mondiale de prière pour la paix, à parler, par exemple, face au communisme. Vous ne vous rappelez pas de vos époques, mais le combat de Solidarnosc, d'un Lech Walesa, ce n'était pas par les armes. En face de lui, il y avait un monde énorme, d'une puissance énorme. Mais pourtant, une personne, et puis le pape Jean-Paul II, évidemment, a fait vaciller un empire. Donc, je crois que je trouve que ça nous donne des beaux exemples de dire que, sans rentrer dans la logique de la violence, nous avons, nous, comme chrétiens, disciples de Jésus, à ne pas accepter les choses, mais en même temps à être profondément convaincus que nous portons en nous-mêmes des germes de paix et pour construire la civilisation de l'amour qui n'est pas sans souffrance. Ce n'est pas le monde des bisounours, on est bien d'accord. Et Jésus, sa vie, ce n'est pas une vie de bisounours. mais que nous portons en nous-mêmes des germes de paix quand nous sommes des hommes et des femmes intérieurs. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser, Xavier? Oui, alors, on n'est pas. Qu'il y ait un discernement. Tout le monde a entendu la question, oui? Tout le monde, c'est-à-dire, est-ce que si je me bats contre les injustices, etc., sur les réseaux sociaux, et que je remonte et je partage des choses, etc., où on voit l'Église qui est attaquée, où on voit que les chrétiens sont. Bon, finalement, je vais perdre tous mes amis, je vais très vite cataloguer, etc., etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un discernement? Alors déjà, sur les réseaux sociaux, il y a certainement un discernement à faire. De ne pas propager, mais bon, vous n'êtes pas tellement dans ces âges-là, mais plus c'est les collégiens, les lycéens qui propagent des insultes sur les uns et sur les autres. Ça, à mon avis, c'est quelque chose à abolir absolument. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un discernement, mais discernement ne veut pas dire lâcheté. Discernement ne veut pas dire lâcheté. Discernement veut dire... On n'est pas appelé à mener tous les combats, on n'est pas le chevalier blanc à mener, on n'est pas le sauveur du monde, il y a des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres, et sur lesquelles on peut être aussi relayer des initiatives. Voilà, je pense que c'est aussi voir quel est le lieu qui vous touche le plus, de se dire, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a l'implication en politique. Pour faire bouger les lignes. J'espère faire venir ici Madeleine de Gessé. Et du coup, et son témoignage est super, c'est une fille qui a vos âges. Et du coup, elle a vraiment, je trouve que c'était très intéressant de voir sa manière de voir, qu'elle dit, voilà, je ne vais pas laisser la place aux autres. Je vais aussi m'impliquer. Et elle a fait les veilleurs, etc., avec d'autres, etc. Bon, et puis tout ce que... Bon, sens commun, bon, alors on peut dire oui, mais la politique, c'est sûr, c'est forcément l'art du compromis. Et ce qui parfois peut être un danger pour les catholiques, en revanche, c'est une forme de catharisme, d'être les cathares. Les cathares, c'est quoi? C'est les purs. Ah, maintenant, il n'y a rien qui est pur, du coup, comme c'est pas pur, voilà, du coup, on le fait rien. Maintenant, forcément, qui se met les mains dans la politique, se met les mains dans le cambouis, forcément. Donc, du coup, voilà. En tout cas, je pense que c'est pas tout ou rien. Il y a où mettre le curseur, et ça je pense que le discernement peut le faire avec quelqu'un, où mettre le curseur, mais en même temps, les personnes de conviction, c'est des personnes qui attirent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. 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 C'est pas évident. Avec les migrants, c'est une chose qui est pas si simple que ça. Bon, il y a un principe aussi. Je crois qu'il y a la loi aussi. Je pense que mine de rien. Il y a aussi la loi. Alors, est-ce qu'on peut aller contre la loi? Certains sont allés contre la loi dans le passé. Mais ils ont abrité des résistants, ont abrité des gens qui défendaient pour pour l'indépendance de leur pays, etc., dans les pays africains. Bon. Ou les boat people, ou bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est... Maintenant, une chose pour parler des migrants, qui me surprend quand même, de la part des catholiques, une certaine, disons, frilosité. C'est-à-dire que, quand même, s'il y a un truc qui fait partie de l'Évangile, c'est Matthieu 25, chapitre 25, hein, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». C'est noir sur blanc. « Bienvenue les bénis de mon Père ». Et j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, eh bien, allez là où il y a des grincements de dents. Hein, c'est ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est vrai que, même s'il faut un discernement, mais je suis quand même perplexe qu'autant qu'il y a eu des manifestations multitudinaires contre le mariage pour tous, mais je ne vois pas des gens se précipiter dans la rue pour demander un meilleur traitement de personnes qui sont en grande fragilité, comme des personnes migrantes. C'était le cas aussi, alors on dit oui, mais ce n'est pas des chrétiens. Mais d'accord, mais c'était le cas pour les Boat People, qui n'étaient pas non plus des chrétiens. C'était des Boat People, c'était des Vietnamiens, etc. Et du coup, il y avait un certain rejet. Parce que l'étranger nous fait peur, parce que beaucoup de choses, voilà, donc... Maintenant que toute la misère du monde vienne chez nous, ce n'est pas non plus possible. Mais bon, la France n'est de loin pas le pays le plus accueillant en cette matière-là. Mais je trouve que voilà, c'est... Est-ce qu'on a conscience aussi que certains qui ne partagent pas notre foi vont peut-être plus loin dans cet accueil de personnes qui sont en difficulté. Ça demande... Mais derrière le discernement... Ne justifions pas notre indifférence. Alors le pape François, il y allait très fort au départ. Il a dit accueillir dans chaque paroisse, chaque communauté, etc. Puis après mais il n'a pas du tout de connaissance de l'islam, le pape François. Forcément, en Amérique latine, il n'y a personne. Donc, du coup, il a un peu découvert ça en Europe. Et du coup, il dit, bon, ensuite il est revenu, oui, il faut aussi un discernement, etc., sur la manière d'accueillir, bon, pour pas que ce soit des ghettos, pour pas que ce soit... bon. Mais du coup, je trouve quelque part, il y a aussi quelque chose de prophétique aussi qu'on peut dire. Alors, sûr qu'il ne va pas dans le sens que ça va peut-être en choquer certains. Je sais que ça a beaucoup choqué l'attitude du pape, par exemple, quand il a ramené au Vatican 3 familles musulmanes. Ça a beaucoup choqué. Ah, il faut être musulman pour que le pape s'occupe de nous, alors qu'il y avait des chrétiens persécutés dans les camps. Ça a beaucoup, peut-être parmi vous, ça les a beaucoup choqués. Je sais, parmi les fidèles, il y a beaucoup qui ont été interpellés, pour le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, je trouve quelque part, c'est... J'essaie d'analyser ce geste-là, parce que c'est un geste qui est... C'est vrai que spontanément, je n'aurais pas fait ça. Mais c'est un geste quelque part plus que prophétique de dire, c'est parce que c'est d'abord des personnes humaines que l'on va à leur rescousse, c'est pas d'abord parce qu'ils ont telle foi ou telle foi. Mais je trouve qu'on est, de ce point de vue-là, en tant que chrétien, on est beaucoup en deçà de ce qu'on pourrait faire. Parce que les gens, s'ils veulent venir, ils viendront. Mais pire, c'est ce qu'on voit avec l'immigration, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Des gens dont on ne s'occupe pas, qui restent ghettoisés, c'est la bombe à retardement. Ça, c'est sûr. Alors, donc, peut-être il y a une question, un questionnement à avoir là-dessus. Oui. Il y a empêcher le violent, bien sûr, je pense que ça... Mais s'il n'y a pas d'autre chose, s'il n'y a pas d'autre possibilité, bien sûr qu'il y a... Le type qui arrive avec une arme, il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas juste être dans la non-violence. Il y a des forces de l'ordre qui maîtrisent, qui descendent les personnes, voilà, les types qu'il faut descendre. Mais on dit que ça reste un mal. Oui, bien sûr, on ne peut pas tolérer tout, ça c'est évident. Il y a des gens qu'il faut mettre hors d'état de nuire, parce que c'est pour ça qu'il y a des prisons, même si ça les fait nuire plus davantage après. Mais bon, c'est intéressant de voir que la pénitence, quand vous vous confessez, le prêtre vous donne une pénitence. La pénitence a deux objectifs. Premièrement, guérir. Deuxièmement, réparer. Donc c'est intéressant qu'on donne une pénitence à quelqu'un. Bon, en quoi ça répare, ou on estime que la privation de liberté répare, mais est-ce que ça guérit? C'est loin d'être le cas. Donc du coup, je trouve que c'est, oui, face à quelqu'un qui est dans la violence, etc., il faut l'arrêter. Quelqu'un qui vous bat, ou qui bat, il faut appeler les personnes qui sont, c'est sûr, ça me paraît. Mais c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on a tout fait. Et c'est pas parce que Daesh sera vaincu que l'islam radical sera vaincu. Ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Donc oui, oui, et c'est pour ça qu'on peut être et militaire et catholique, parce que justement, c'est contre, on va pas agresser, mais on va dans une défense, quoi. Donc, bon. D'autres questions, mes amis? Alors oui, il y a des courants. Alors, est-ce qu'ils font le mal? On peut tomber. On a quand même une liberté d'expression. Les créationnistes, oui, alors il y a, c'est beaucoup chez les évangéliques qu'il y a beaucoup ce mouvement-là. Hein, se dit que la création a été créée en 7 jours, 4 plus 3. Bon, c'est autre chose. C'est 7 jours, mais ça veut dire autre chose. Mais donc, du coup, voilà. Il y a des choses dans lesquelles, dans l'Église, on peut très bien ne pas être d'accord. Mais ce que je trouve, c'est les saints. Ils ont réformé l'Église de l'intérieur. Il y avait des choses dans lesquelles ils trouvaient inacceptables. Il y a eu des périodes de l'histoire de l'Église qui étaient juste inacceptables. On fête les 500 ans de la Réforme, mais bon, le dommage, c'est que Luther, il a réformé de l'extérieur. Il a dit, de toute façon, l'arbre est pourri, il n'y a plus rien à faire. Et c'est vrai que c'était assez pourri. Mais les saints ont cru que l'arbre, il pouvait encore porter du fruit. Donc, je pense que oui, il faut réformer, mais oui, oui, oui. Oui. Ah oui, alors, ça c'est la révélation, ça pour le coup là, on peut très bien ne pas croire. D'accord, mais bon, que l'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Il y a eu une intervention divine à un moment donné. Mais ça c'est la foi, c'est la foi. Ça, c'est, on peut très bien ne pas avoir la foi. Oui. Oui, alors, bon, c'est un peu, je trouve qu'on s'éloigne du sujet, bon, on va pas parler tout à l'heure, mais c'est pas tellement face à la question du mal, ça c'est plutôt la foi elle-même, là, bon, c'est un débat sur la foi, alors, on peut très bien ne pas avoir la foi, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi dans l'Église s'insurger contre des pratiques qui nous semblent, et on l'a vu avec toute la question de la pédophilie, que le fait de vouloir protéger l'institution contre tout, mais c'était pire que mieux. Donc, oui. Oui, dans le thème. Question dans le thème. Sinon, non. Non, non. Non, non, mais non, c'est pas dans le thème. C'est pas dans le thème. C'est pas le thème de ce soir. On fera un autre truc sur Dieu créa l'homme et femme, il les créa. On fera un enseignement là-dessus, mais c'est pas le thème. D'autres questions? Mes amis, alors je crois, j'appelle, me sens un peu seul, sinon c'est bon, pour faire la présentation de la partie du vin.
Merci, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais faire une petite présentation, mais très rapide, ici.